Libre Radio, www.libradio.org. Le frisson de la radio, le murmure des mots, le soubresaut de l'idée et le séisme de l'acte. www.libradio.org.
Voilà, nous sommes de retour en direct depuis le site de la 15e édition de la Féerie d'une nuit. C'est ici au Signal de Bougie, un petit peu entre Genève et Lausanne, en gros. Et nous sommes en compagnie de Pascal. Voilà, allô Pascal ?
Oui,
bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous ?
Bonsoir, eh bien écoutez, moi ça va. Ça va.
Voilà, alors,
on repose un petit peu.
Oui, j'imagine. Alors voilà, justement pour nos auditrices et auditeurs qui le savent, puisqu'on a fait une première partie d'entretien avec Sarah Katz, vous étiez vous-même membre de l'équipage du Freedom, donc le deuxième bateau, celui qui a suivi le Al Aouda et qui a également été arraisonné en eau internationale, donc un acte de pure piraterie, comme on l'a bien précisé tout à l'heure. Alors, vous étiez donc sur ce bateau-là. Expliquez-nous comment cela s'est-il passé ?
Eh bien, écoutez, pour nous, les choses se sont bien passées par rapport à la Houda, où j'ai appris après arriver et surtout après de retour en France, comment ça s'est passé avec les violences qu'il y a eu. Nous, il n'y a pas eu ça du tout. J'aurais tendance à dire qu'on était dans un scénario très bien huilé et de communication de la part organisée par Israël, où en fait on a été cueillis en douceur par les Boy Scouts de l'armée israélienne qui ont envoyé, je pense, les tout jeunes qui font leur 3 ans de service militaire. Et après, c'était une grande cérémonie qu'ils ont organisée, quoi. Sur notre dos.
D'accord. Alors peut-être quand même, juste pour savoir vous-même, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé sur ce bateau ? Quelle est en quelques mots votre trajectoire et les valeurs qui ont fait que tout d'un coup vous êtes engagé dans un projet qui n'est pas sans conséquences ? Enfin, je veux dire, c'est quand même pas évident de se faire arraisonner et puis emprisonner.
Oui, donc bon, moi j'ai toujours été dans des milieux militants, aussi bien politiques que syndicaux. À vous, la question de l'internationalisme est important et la solidarité entre les peuples est important. Et souvent, les causes de mal-être des peuples sont les mêmes et plutôt que de faire jouer les concurrences entre les peuples, c'est plutôt les solidarités qu'il faut développer. Mon arrivée sur Freedom est un peu le fruit du hasard, étant donné qu'en fait c'est un copain de Marseille qui poste sur Facebook l'arrivée de bateaux de la flottille à Marseille. Et moi-même n'avais jamais entendu parler de ça. Personnellement, je fais de la voile depuis très longtemps. Je suis moniteur de voile habitable en tant que tel et j'avais des disponibilités. Donc, la cause me semblait très bien. Et comme ça, en commentaire, un peu à la volée, je dis, bah, écoutez, s'il y a besoin d'un marin, j'en suis. Et le lendemain matin, je reçois un coup de téléphone en me disant est-ce que c'était une blague ou est-ce que c'est sérieux, et parce qu'il y a besoin de quelqu'un, effectivement, d'un marin sur un bateau, et voilà, l'affaire était partie. Donc ça s'est fait par hasard. Après, ceci étant dit, l'engagement par rapport à la cause palestinienne, et ainsi de suite, ça m'est arrivé plusieurs fois, effectivement, en France, d'intervenir par différents moyens en tant que tel. Et là, ça a été, c'était une occasion de pouvoir m'engager plus particulièrement par rapport à ça. C'est vrai que j'ai eu d'autres actions par rapport à d'autres endroits, et notamment quand j'étais jeune, par rapport à la question de l'apartheid, où ça avait été des grosses luttes aussi en France à une époque, quand j'étais nettement plus jeune. Voilà.
Ok. Et alors, sur le Freedom, s'il fallait brosser un portrait un petit peu comme ça, en quelques mots, de l'équipage, oui, qui était à bord et que transportiez-vous ?
Qui était à bord, donc en premier lieu des Suédois, parce que c'était un bateau suédois et que c'était la Suède et la Norvège qui organisaient la flottille cette année. Ensuite, nous avions un capitaine qui était canadien. Il y avait un autre chef de quart. Alors moi, j'étais chef de quart et un autre chef de quart était espagnol. Nous avions une Allemande. En fait, en tout, nous étions 12 personnes, 6 nationalités différentes. Et en fait, il y avait des gens qui venaient par militantisme par rapport à la cause palestinienne et contre le blocus à Gaza, et des membres, et nous étions trois plus particulièrement affectés à la marche du bateau. Sachant que, contrairement à la Houda, où en fait il y a des marins et c'est eux qui s'occupent de la marche du bateau, sur un voilier, tout le monde participe. Nous étions trois à diriger les manœuvres et ainsi de suite, mais par contre, tout le monde participe. Et ensuite, pour ne rien oublier, nous avions à bord, parmi les 12 personnes, deux journalistes, et tous les deux anglais.
D'accord. Et également, comme le Al Aouda, vous aviez comme transport des matériaux médicaux, vous avez des ma oui.
Oui, donc en fait, oui, j'ai oublié la deuxième partie de votre question, qui était effectivement ce que nous transportions, donc essentiellement des médicaments que l'on voulait apporter à Gaza, puisque en fait, il manque cruellement de médicaments et que les hôpitaux se font bombarder et ainsi de suite.
Oui,
Alors,
parce qu'on le
donc,
rappelle.
euh, et la deuxième livraison aussi était le bateau en lui-même. Étant donné que tous les bateaux à Gaza se font bombarder les uns derrière les autres et que ça manque cruellement parce qu'en fait les pêcheurs n'ont plus de bateaux, enfin ils en ont encore, mais plus assez pour arriver à avoir une activité normale, quoi, entre guillemets, si c'est possible d'avoir une activité normale
Oui,
là-bas.
c'est ça. Parce qu'on le rappelle, depuis plus de 12 ans, eh bien, le blocus règne, et que donc blocus
Oui.
terrestre également, un blocus maritime terrestre et aérien, et que donc effectivement il manque de tout à Gaza. Donc vous alliez, en fait,
Tout à fait.
votre intention c'était de laisser également le bateau, est-ce à dire que déjà vous étiez organisé pour rentrer d'une autre manière du coup que maritimement? Il était question.
Oui, tout à fait,
D'accord.
hein. Donc, en fait, si nous arrivions à Gaza avec le bateau et les médicaments, le bateau était prévu, mais tous les bateaux de la flottille étaient prévus pour rester
D'accord.
là-bas, arriver à Gaza et être livrés aux Palestiniens de Gaza. Et donc, en fait, pour le coup, on serait rentré en avion standard,
Oui,
quoi.
voilà. Et alors, comment ça s'est passé, ce moment d'arraisonnement? Donc, de quelle manière est-ce que les soldats, les marins dits israéliens sont arrivés à votre contact? Et ensuite, que s'est-il produit? Est-ce que, comme là au Laouda, vous avez ensuite été incarcéré? Faites-nous une récite ça.
Oui, donc, en fait, nous sommes arrivés au début de la nuit entre 15 et 20 000 de la zone interdite sur les cartes marines. Et en fait, je pense que j'estime à peu près par rapport à la dernière fois où j'étais allé à la table à cartes, j'estime que nous étions à 15 000 de cette zone-là, encore au large, au moment où les bateaux sont arrivés et nous ont arraisonné. En fait, nous avons reçu à la toute fin de comment au moment où le soleil se couchait, nous avons reçu un premier appel sur la VHF de l'armée israélienne qui demandait quelle était notre intention, quel était le nom de notre bateau, combien étions-nous à bord et ainsi de suite. Et en fait, John, le chef de bord, a répondu que notre but était d'aller à Gaza, au port de Gaza. Que concernant d'autres, que nous étions le bateau qui se prénommait Freedom, mais après, pour les autres questions, nous étions, nous, internationales, et nous n'avions pas non plus à répondre à toutes les questions des Israéliens en tant que tels. Donc ensuite, il y a eu différents appels où les Israéliens nous ont demandé de stopper le bateau et de le rediriger ailleurs. Nous avons continué à faire route et il y a eu un dernier appel où l'armée israélienne a très clairement dit que nous étions responsables de ce qui arriverait. alors que nous étions toujours dans les eaux internationales. Mmh. Et pour le coup, un quart d'heure après, une heure après, au final, nous étions encerclés par, entre 6 et 8 bateaux, dont 4 zodiacs, et 2 zodiacs sont venus en parallèle et ont envahi le bateau. Et nous étions 12 à bord, 12 dans le cockpit, nous étions tous regroupés dans le cockpit, personne à l'intérieur. Et en l'espace de 5 minutes, 2 zodiacs ont déversé entre 50 et 70 soldats sur le pont.
D'accord. Et ensuite, alors, comment ça s'est passé? Les personnes vous ont conduit en prison, vous ont gardé, vous ont interrogé et expliqué?
Tout à fait. Donc après, effectivement, le bateau a été remorqué, a été pris en charge et remorqué. Donc de toute façon, nous n'avions plus de moteur, donc on a été tracté. On a été amené dans un port israélien et là, fouillé par l'armée, la police et ainsi de suite, et directement mis en prison. Étant donné qu'en fait l'armée israélienne tente de nous faire passer comme étant des migrants illégaux, alors qu'en fait nous avons été kidnappés dans les deux eaux internationales. Donc voilà. Et là nous avons passé nous sommes arrivés en prison le 4 et sortis le 7 au soir, le 8 au matin pour prendre l'avion, quoi.
D'accord. Eh bien, dis donc, quelle odyssée. Peut-on dire que les personnes...
Oui, tout à fait. Alors, par contre, des conditions de détention, pour nous, de ce que j'ai entendu dire, ça a été meilleur que nos prédécesseurs à la Houda. En même temps, je pense que Israël est très soucieuse aussi de son image par rapport aux pays occidentaux. Et je pense qu'ils se sont dit qu'en fait, ça s'était pas forcément bien passé et que ça pouvait laisser une mauvaise image. Et ils ne voulaient pas réitérer la chose. Parce que, en fait, ils ne voudraient pas se mettre à dos quand même des gouvernements type celui de la France qui est quand même bien bienveillant vis-à-vis de ce qui se passe en Israël et avec le gouvernement israélien, mais qui aurait été peut-être amené quand même à bouger si effectivement des violences se répétaient au fur et à mesure de la même façon que ce qu'a connu à la Houda, quoi.
Ouais.
Donc je pense qu'il y a eu une opération de com qui était de dire écoutez, on fait les choses de façon soft. Mais des choses de façon soft, de toute façon, faut pas se leurrer, ça a été d'empêcher une mission qui est tout à fait juste, légale et qui était quand même une œuvre humanitaire en tant que telle, quoi. Donc,
bien sûr. Oui, parce qu'on le rappelle, hein, la flottille était animée par des intentions pacifiques, purement pacifiques et exclusivement pacifiques. Non, on le rappelle parce qu'effectivement, on en disait lors de du premier entretien avec Claude et puis ensuite juste avant avec Sarah, nous rappelions que pour nous, on trouvait démentiel cette disproportion des moyens militaires mis face à une flottille de gens totalement désarmés, totalement pacifistes, et que cela était pour nous l'équivalent de se tirer une balle dans le pied. Mais il faut croire qu'effectivement, la réaction a été justement après de mieux calibrer peut-être leurs actes brutaux, mais sans, voilà, peut-être en altérant et en émoussant un peu cette espèce de vigueur et d'agressivité dont ils avaient fait preuve pour en tout cas l'Al-Aouda.
Tout à fait. Tout à fait. Nous avions été même jusqu'à quelques heures auparavant, en se rapprochant de la zone, on a été jusqu'à jeter à l'eau tout ce qui était couteau, y compris couteau de cuisine, tournevis, tout instrument qui aurait pu être considéré par l'armée israélienne comme étant une arme. Donc on voulait absolument qu'il n'y ait aucun doute là-dessus et qu'ils puissent dire quoi que ce soit, comme quoi on aurait pu avoir des gestes violents en étant armé de ceci ou cela. Il n'y avait absolument plus rien.
J'imagine. Alors, que peut-on dire de la population gazaoui? Est-ce que l'on peut dire que, certes, techniquement, la flottille a échoué puisqu'elle n'a pas pu briser le blocus, mais bon... Concrètement, oui. On savait qu'il y avait peu de chances qu'on puisse briser
tout
ce... Voilà. Mais est-ce que la population... Comment la population gazaoui a répondu à ça? Quand sait-on maintenant? Est-ce que, quand même, le fait qu'il y ait eu cet acte fort qui soit produit et que ce soit le sixième, leur permet l'espoir? Est-ce que ça, c'est important pour eux quand même que ce signal soit envoyé? Ou est-ce que c'est un peu la résignation qui les habite maintenant?
Absolument pas. La résignation, absolument pas.
Génial.
Parce qu'en fait, déjà, il faut savoir que concrètement, la lutte continue. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des avocats aujourd'hui en Israël qui prennent en charge le dossier de façon à ce que les médicaments qui ont été amenés soient livrés aux Palestiniens de Gaza et de même pour les bateaux. Donc ça, c'est une première chose. C'est une bataille juridique qui, j'espère, va permettre effectivement la livraison des médicaments et des bateaux. Et en plus de ça, je pense qu'il y a la bataille juridique qui est importante, mais il y a aussi la bataille d'opinion. Et votre émission de ce soir est un élément très important, comme toute information qui peut être diffusée, qui a pu être de sensibiliser les gens à ce qui se passe sur Gaza, le blocus qu'il y a, c'est-à-dire qu'en fait, les habitants de Gaza ne peuvent avoir aucun échange avec l'extérieur, que ce soit par terre, par mer, par air, et donc en fait, c'est une prison vraiment à ciel ouvert en tant que telle. Et donc, il faut arriver à ce qu'il y ait une majorité de personnes qui en aient conscience et qui aient cette information, parce que on en parle en définitive très peu dans les médias, ou alors de façon très succincte, sans que les gens se rendent compte de ce que ça veut dire, quoi. Et cette bataille de l'opinion publique, elle, va être extrêmement importante. Afin de permettre à ce que ces bateaux et ces médicaments puissent au final être livrés à Gaza. Il y aura encore d'autres initiatives dans les années à venir jusqu'au moment où il y aura l'arrêt du blocus et avec la mobilisation de la plus grande partie possible de l'opinion publique et ainsi de suite. Ça ne s'arrêtera pas là. Si je prends l'exemple, j'en parlais tout à l'heure, mais de l'apartheid et de l'Afrique du Sud, il a fallu quand même un sérieux nombre d'années avant que la victoire éclate et qu'il y ait l'abandon de l'apartheid. Mais ça a fini par arriver et je reste persuadé que ça arrivera aussi pour Gaza et les territoires occupés.
Ben absolument, et nous on adhère dans votre sens, on abonde dans votre sens. Alors Pascal, on va arriver au bout de cet entretien pour cette fois-ci, pour en terminer là, et certainement de toute façon nous en reparlerons, parce que quoi qu'il en soit, nous allons rester en alerte pour les suites, hein, et puis j'espère qu'après il y aura encore, qui sait, peut-être une tournée de témoignages, que les gens seront encore plus informés et que voilà, une conscience surgisse, une conscience critique. Mais pour en finir, qu'en reste-t-il et comment s'est passé votre retour?
Comment s'est passé, moi?
Comment s'est passé votre retour à la maison, au foyer? J'imagine qu'il y a une grosse fatigue, mais que vous avez été bien accueilli. Et que vous en reste-t-il humainement pour vous? Je pense que c'est du côté de l'espoir et de la volonté de continuer qu'il va falloir pencher.
Oui. Alors, mon retour, à partir du moment où on a eu l'annonce en prison comme quoi on retournait tous chez nous. Donc en fait, là, il y avait quelque chose de rassurant, c'est qu'en fait, on est tous repartis en même temps. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on partait pas un par un et ne sachant pas ce que devenaient les autres. Donc ça a été quand même rassurant pour nous, en tant que tel, hein, de savoir qu'on est tous renvoyés chez nous. Ensuite, voyage en avion, un peu long, et ainsi de suite. Et après, un accueil, moi personnellement, je suis rentré sur Paris avec John, le chef de bord. Et là, il y avait quand même beaucoup de monde qui nous attendait à l'aéroport. Nous attendu un petit peu longtemps parce que en fait on a été retenu aussi par la police française, à savoir aussi qu'il y avait des personnes de la police française qui sont venues aussi nous féliciter de l'initiative que nous avions prise. Donc ça fait aussi plaisir et après au retour quand nous sommes sortis nous avons passé les portes où en fait il y a les gens qui attendent les voyageurs et là il y avait quand même un comité qui était mobilisé et qui était relativement conséquent et ça faisait plaisir de voir cette mobilisation quoi.
D'accord.
Donc ça c'est une première chose. Moi après maintenant ce que je ressens par rapport à cette aventure, c'est une aventure humaine qui est extrêmement enrichissante parce qu'on rencontre plein de monde qui ont des valeurs humanistes où l'on se retrouve et humainement c'est une superbe aventure. Parce que quand même, il y a tout ce voyage hein, en bateau, un voyage en bateau avec la mer à la voile, ça met du temps. Donc, il y a des moments où on pense à l'arrivée, on sait que ça va être dur, mais il y a aussi plein de moments où on est content aussi d'être ensemble et d'être sur le bateau quand même. Hein. Voilà, il y a tous ces contrastes qui existent. Après, je pense que je suis en train de digérer tout ça et que ce que je peux penser ce soir soit aussi modifié demain et après-demain hein, en fonction de ça. Mais en tous les cas, aujourd'hui, mon envie, elle est de continuer l'action. Jusqu'à l'abandon du blocus.
Du blocus, voilà, exactement. D'accord, voilà. Très bien, merci beaucoup Pascal pour toutes ces informations, c'est extrêmement intéressant et on aurait envie d'y passer toute la soirée, mais je dois dire que nous avons parmi nous nos prochains invités qui sont là, donc on va devoir s'arrêter là pour ce soir, mais on a nos coordonnées, donc on en reparlera certainement. En tout cas,
d'accord. Encore
mille merci pour ce témoignage Pascal, donc vous étiez marin à bord du Freedom, un des deux bateaux de la flottille pour la liberté à Gaza qui ont été arraisonnés en eau territoriale. Donc le Freedom et le Al Aouda, on le rappelle pour les auditrices et auditeurs, et que voilà, vous avez été par la suite non seulement arraisonné un acte de piraterie pure puisqu'il s'est produit en eau territoriale, en eau internationale pardon, vous avez ensuite été incarcéré et que maintenant vous êtes heureusement vous et l'ensemble des deux équipages en sécurité à la maison.
Tout à fait.
Très bien. Alors merci.
Tout à fait.
Merci
et prêt à recommencer.
C'est parfait. En tout cas, on l'a bien entendu tout au long de cet entretien. Merci beaucoup et bonne soirée.
Ben merci à vous, et parce que c'est important de faire des émissions sur ça et sur cette problématique et que ça fasse germer des idées dans l'ensemble de la population.
Merci. Mais c'est clair. Et d'ailleurs, on reviendra vers vous certainement. Allez, on y va.
D'accord.
Bonne soirée.
Très bien. Eh ben écoutez, merci et bonne soirée.
Bonne soirée. Bye.
Voilà.
Voilà. Au revoir. Petite pause musicale et puis on revient pour la suite des opérations. Nous sommes ensemble pour le direct jusqu'à 22h et pour le non-direct jusqu'à plus tard encore. Si tu souhaites questionner nos prochains invités, on va faire une table ronde parce que évidemment on est en retard. C'est-à-dire que nous allons recevoir trois personnes, trois joueuses qui sont là en face de moi de l'équipe féminine de hockey sur glace du Forward Morges. Bienvenue à vous. Vous allez ensuite vous présenter tranquillement et tout et tout. Et simultanément, si vous ne voyez pas trop d'inconvénients, nous allons parler. Alors, c'est un petit peu un sujet aussi qui a un léger rapport puisque c'est de la randonnée. Donc, c'est quand même quelque chose de dynamique, pourrait-on dire. Ce que nous, on n'est pas à la radio. Nous allons parler de Go Rando qui est en fait un projet, un petit bébé d'un camarade qui s'appelle Guillaume. Mais avec lequel nous serons en compagnie par téléphone également. Voilà, petite pause musicale, une petite minute ou deux histoire de boire un coup et on revient juste derrière.
Libre Radio à la féerie d'une nuit. Sous les étoiles, Libre Radio www.libradio.org. La radio qui ne craint ni le ciel, ni la terre, Libre Radio, la radio qui ne craint même pas la peur.
Programme intégral de la féerie d'une nuit au signal de bougie sur www.féeriedunenuit.ch.
Voilà, nous sommes de retour en direct depuis le site du Signal de Bougie, précisément la 15e édition de la Féerie d'une nuit. La Féerie d'une nuit, nous allons commencer maintenant que le soleil se couche à observer doucement ces fameuses perséides que nous appelons de nos voeux depuis le début de cet après-midi. Les perséides, qu'est-ce donc ? Eh bien, nous avons pu en parler tout à l'heure avec nos différents invités. Ce sont des étoiles filantes. Alors voilà, on va tout à l'heure se coucher dans l'herbage au frais ici et nous allons observer si effectivement nous allons être assaillis comme ça de ces perséides, de ces étoiles filantes. Marion, bienvenue. Anaïs, bienvenue. Et Johan. Johan, bienvenue. Vous êtes toutes les trois joueuses de hockey sur glace au Forward Morges. Non, vas-y, parle carrément. Dis. Oui, on est carrément en live et tout ça. Non, mais tu sais, c'est de la radio libre, hein. Les gens savent et puis on fait comme on peut. Donc voilà, alors vous êtes toutes les trois joueuses au club de hockey sur glace féminin du Forward Morges, c'est ça?
Voilà, ouais.
Bienvenue, on est ravis de vous recevoir. Ouais, les micros sont... T'as vu un peu? Ouais, c'est pas mal. Hein. Alors dites-moi, depuis quand est-ce que vous pratiquez le hockey sur glace, chacune de vous? Ça fait longtemps ou bien c'est une activité que vous avez découvert assez récemment? Qui veut commencer à répondre? Ah ben, je sais pas. Marion.
C'est égal.
D'accord, Marion, allez.
Alors, donc moi, je joue pas, j'entraîne l'équipe de Morges, donc mm-hmm. Je suis l'entraîneur principal.
D'accord.
Moi, j'ai joué depuis mes 16 ans, je dirais. Donc là, ça fait à peu près 10 ans que je joue, enfin, que j'ai joué et puis que j'entraîne. Ça fait depuis 2012 que j'entraîne cette petite équipe à travers la Suisse romande. Et là, à Morges, ça sera la 4e année.
Déjà.
Déjà.
D'accord, très bien. Alors voilà pour le coach. On dit coach, entraîneur ?
C'est égal, le coach. Égal. En général, elle m'appelle coach.
Parce que il y a donc, tu as dit coach principal. Et c'est-à-dire qu'il y en a des secondaires ou des spécifiques ?
Alors, moi, je m'occupe de gérer tout ce qui est le féminin, entre guillemets, enfin, les filles en général dans l'équipe, les entraînements. Je fais le lien avec le comité aussi. Après, on a un autre entraîneur qui s'appelle Yannick, qui est malheureusement pas avec nous ce soir, qui nous aide pas mal, qui m'aide pas mal pour les organisations d'entraînement sur la glace, etc. Et on a aussi normalement un nouvel entraîneur qui sera avec nous l'année prochaine, qui sera spécifique pour les gardiens.
Ah, d'accord, de gardiens. Très bien. Anaïs et Johan, et vous alors, est-ce que ça fait longtemps que vous pratiquez le hockey sur glace?
Alors moi, j'ai fait 2 saisons. Et avant, je faisais beaucoup de sport et puis j'ai décidé de me lancer dans quelque chose de nouveau, un sport d'équipe. Et puis je me suis dit, pourquoi pas commencer le hockey sur glace.
D'accord. Et toi, Anaïs?
Alors moi, ça fait pas longtemps du tout. J'ai commencé l'année dernière et c'était tout nouveau pour moi. Mon compagnon est un assidu fan de hockey, de NHL, etc. Et j'ai vraiment accroché au sport et j'ai eu l'occasion par hasard de rencontrer l'équipe de Morges et les filles. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé et que cette saison, j'attaque avec elles dès le début en fait.
D'accord. Tu as dit le mot NHL, National oui. Hockey League, donc oui. Le hockey nord-américain, oui. Dont on peut dire que c'est plus ou moins le meilleur du monde.
Oui.
Ou pas loin, en tout cas parmi les meilleurs du monde.
Oui, tout à fait.
Je veux pas exciter des susceptibilités non plus. Non, je dis ça parce que quels sont justement les modèles que l'on a et qui nous attirent vers le hockey? Parce que la Suisse est également un pays de hockey.
Ouais.
Mais voilà, ce qui vous a attiré, c'était plus, en tout cas pour toi Anaïs, ce côté de la NHL avec un hockey. Je sais que là-bas les patineurs sont un petit peu plus petites aussi, enfin
oui.
Il y a toute une série de choses.
Deux, trois différences. Mais
deux, trois petites différences, voilà. Voilà, alors, voilà, où est-ce que vous avez pêché vos modèles, en guillemets, en tout cas, où est-ce que vous avez trouvé l'attrait pour ce sport-là?
La passion de mon compagnon, c'est vrai que ça, je vois le plaisir, enfin c'est vrai que... Puis le jeu en lui-même, c'est un jeu où on fait pas de chichi, quoi. On est soi-même. Si on a des choses à régler, on a NHL, ils ont des choses à régler entre eux. Sur la patinoire, ils le font. Enfin, c'est, il y a pas de chichi. C'est un sport technique, hyper intéressant, hyper ludique. Et enfin, moi vraiment, j'ai beaucoup de plaisir à le pratiquer, à le regarder. Enfin, c'est comme ça que j'ai accroché, en fait. Ouais.
D'accord. Ok. Et puis les autres. L'entraîneur, tu veux commencer ?
Oui, c'est égal. Ouais. Moi, j'ai un peu baigné dedans quand j'étais petite parce que mon papa a joué au hockey. Et puis un jour, je lui ai dit, je faisais du foot avant et de la boxe. Et un jour, je lui ai dit, papa, je veux faire du hockey. Il m'a regardé un peu bizarrement et m'a dit, d'accord, t'es sûr ? Puis du coup, on a créé une équipe à l'époque à Mérin où on était toutes débutantes et voilà, on s'est donné les moyens d'y arriver et c'était chouette. Donc c'est vrai que. C'est après ben à Genève on a évidemment Genève Servette, c'est un peu une institution, c'est familial, convivial et une fois qu'on découvre ce sport peut-être différemment que en tant que supporter, on a encore plus d'émotions et c'est là où on peut, comme disait Anaïs, être soi-même et puis donner tout ce qu'on a.
D'accord.
Et moi, je suis assez curieuse. Enfin, j'aime bien découvrir plein de sports, plein de choses différentes. Et puis, une fois, je suis allée à la patinoire et je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer. Et une fois qu'on entre dans l'équipe et puis qu'on met les patins pour la première fois, ben, on n'arrête plus.
Après, ouais. On ne peut plus partir.
Ouais, c'est ça. Alors, tu as dit un des mots clés, voilà, le patin. Et c'est-à-dire qu'il faut, lorsque, notamment toi, Anaïs, qui a dit que tu avais commencé, débuté tout récemment. Mais y a-t-il des prérequis quand même que vous aviez avant ? Le patinage, était-ce quelque chose qui vous attirait ? Ou est-ce que voilà, vous avez tout appris sur le tas avec tout le monde en équipe ?
Alors, pour ma part, je ne savais pas.
C'est Anaïs qui répond.
Ah, oui. Non, ben... Je ne savais pas patiner. Donc, c'est-à-dire que j'ai été 2-3 fois quand j'étais gamine. Le patin, je trouve ça super sympa à faire, mais je ne savais pas patiner. Donc, j'ai tout commencé dès le début. Et puis, je sais pas, c'est des déclics, ça vient. Faut pratiquer, je sais pas. Ouais, c'est.
Non, mais c'est.
Mais oui, déjà, le plaisir de. La sensation de glisse du patin, c'est vraiment, ouais.
Ouais.
Déjà attirant.
Pour ma part, j'ai commencé à patiner, j'avais peut-être 2 ans. Moi, ça fait partie intégrante de ma vie, donc c'est un sport comme un autre. Comme certains vont faire du vélo, moi, j'allais à la patinoire. Mmh. Et j'ai commencé comme ça, et du coup, après, on se donne les moyens de progresser, seul, en groupe. On trouve toujours des gens qui nous aident, surtout dans le milieu du hockey. Bon, en tant que femme, en plus, l'avantage, c'est qu'on a vite des gens qui sont intéressés à nous aider et à nous pousser en disant « Ah, bah déjà, là, elle est venue jusqu'ici, elle essaye, on va l'aider, quoi. »
Ah bah tu vois, ça, c'était une question que j'allais vous poser. Justement, c'était dans le milieu du hockey. Est-ce que le fait d'être une équipe féminine, c'est problématique ou, au contraire, pas du tout, tout se passe bien, voilà.
Alors, ça va dépendre par rapport à quoi. Je dirais, en règle générale, non, pas du tout, c'est pas du tout problématique. C'est même très positif. On arrive à trouver des sponsors, probablement même plus que les garçons. On fait des calendriers, c'est assez facile. Après, peut-être à l'intérieur du milieu féminin, c'est là où c'est plus difficile parce qu'il y a pas mal de rivalité entre les filles. Et ça, on n'en parle pas forcément beaucoup. Mais d'un point de vue extérieur et d'un point de vue général, je dirais que c'est très positif.
D'accord. Vous parliez, mais avant, j'aurais voulu avoir également la réponse de Joanne concernant le patinage. Toi-même, tu savais, c'était un prérequis que tu avais déjà ou là, toi aussi, tu as appris sur le tas ?
Alors, étant enfant, j'ai beaucoup, beaucoup. Je suis allée de temps en temps à la patinoire avec mes parents, mon frère ou comme ça. J'allais peut-être 2 fois par année, mais c'est vraiment quand j'ai intégré l'équipe que là, j'ai dû apprendre et c'est surtout en regardant les autres faire. Et comme ça, on apprend super vite.
Ok. J'ai envie de vous demander les mots-clés qui caractérisent pour vous le hockey sur glace féminin. Ce que je vous propose d'emblée, c'est ceci. Il y en a 3. Sport collectif, sport de contact, sport de glisse. Est-ce que ça vous va ou vous démentez ? Qui commence ? Marion, l'entraîneur.
Moi, je dirais, premièrement, c'est la cohésion. Alors, il y en a aussi dans le hockey masculin, mais je pense qu'au niveau féminin, c'est encore c'est une autre dimension. C'est une dimension de famille, c'est une dimension... c'est vraiment comme une dimension de famille. On est toutes amies, sœurs, proches. Et c'est ce côté émotionnel qui est différent de chez les garçons, je dirais.
D'accord. Et pour les autres mots, qu'en dites-vous ? Donc, je disais collectif de contact et de glisse. Ça vous convient ? les joueuses ?
Ouais, après moi, Anaïs, donc sport de contact, oui, sachant qu'il n'y a pas quand même les mêmes... on n'a pas le droit aux charges comme chez les garçons, c'est quand même... C'est quand même plus
c'est
sympa.
C'est plus technique, c'est je dirais.
Plus, ouais, plus technique, ouais, ouais.
C'était ce qui allait venir après, la différence, les différences caractéristiques du hockey féminin et du hockey masculin. Y a-t-il des réelles différences ? Alors, tu viens de répondre partiellement. En tout cas, certaines charges sont interdites.
Oui.
Alors, tout ce qui est charge, c'est interdit. On a le droit au contact. Oui. Après, c'est à l'appréciation de l'arbitre, évidemment. On a aussi 2-3 règles qui sont différentes. On a obligatoire la grille obligatoire, tandis que chez les garçons, ce n'est pas obligatoire. Ce genre de choses-là.
Les matériels sont équivalents, sont les mêmes, jeunes, entre les filles et les garçons, ou notamment voilà, les différentes protections du corps ?
Moi, je dirais que c'est les mêmes.
Alors, il existe des protections spéciales féminines, pour, par exemple pour les plastrons.
Ah, oui.
Mais honnêtement, j'en ai essayé un une fois, et franchement, la personne qui a dû faire ça, ça devait être un mec, hein, je suis désolée, mais c'était pas du tout pratique. Et franchement, bah, d'ailleurs, et je sais même pas s'ils en font encore, hein, mais c'est pas. Puis il y avait une marque de Cannes qui avait fait aussi une marque spéciale femme. Avec un grip, c'est-à-dire la partie collante de la canne qui était différent, que j'ai testé aussi, qui pour moi n'était pas non plus, enfin c'était pas transcendant. Donc je pense qu'on est habitué à être un sport entre guillemets dit d'homme, on est habitué à mettre le même équipement qu'un homme, ça pue autant que ceux d'un homme, non peut-être pas autant, mais c'est voilà, on est habitué à être dans ce milieu-là, donc on va pas faire de chichi au niveau du matériel.
Petite question certainement très, certainement pas intéressante, mais par curiosité, le POC reste le même POC, ou parce qu'il y a certains sports où on change typiquement le voilà le
absolument l'objet. Pas chez les filles et les garçons c'est pareil bien, tout est la même chose
mais pas plus léger parce qu'on est des filles
non
mais tu as demandé justement
plus
parce
de pompe
que... très bien très bien. Alors ce que je vous propose c'est encore une ou deux petites questions et puis alors on va pas faire en 3/3 temps mais on va faire une petite mi-temps comme ça je parlerai également avec notre invité qui si ça vous va comme ça. Je crois que c'est bien de faire comme ça. Allez, alors, encore, et puis bien entendu que si des questions surgiraient du côté là de la technique, tout ça, eh bien, vous n'hésiteriez certainement pas à les poser. Alors, les entraînements, enfin, comment ça se passe ? Vous voyez, chaque semaine, vous faites 1-2 entraînements, plus que ça, puis après, il y a un match, un championnat. Comment tout ça est-il organisé ?
Alors là,
c'est Marion
ouais,
qui
c'est
répond,
Marion.
La coach.
Alors là, pour le moment, on a 2 entraînements par semaine l'hiver, le lundi et le vendredi. Donc nous, on a une équipe de championnat. Il y a d'autres équipes qui ne sont pas en championnat. Nous, on a le parti pris de faire du championnat parce qu'on a des matchs qui sont un peu dans toute la Suisse romande. Donc on a normalement les matchs le samedi ou le dimanche. Après, pas toutes les filles de l'équipe font le championnat. C'est un peu en fonction du niveau, en fonction de l'assiduité aux entraînements. Ça peut dépendre de pas mal de choses. Et puis voilà, donc l'été, on a aussi un entraînement par semaine de préparation.
D'accord, donc c'est quand même un investissement assez chaud. Une question par là.
Vous ne jouez que contre des hommes dans ces championnats ? Alors, que contre des femmes,
ouais, pardon. C'est un championnat uniquement féminin. On a après les ligues corporatives, c'est des ligues mixtes, mais bon, en général, il y a peut-être 2 ou 3 filles. Par exemple, moi, je joue avec une équipe à Genève, avec l'équipe des services industriels. Je suis la seule fille dans l'équipe et on est peut-être 2 dans toute la ligue. Donc, voilà.
Bon, mais ça, c'est comme tu dis, championnat corpo.
C'est un championnat corporatif, voilà. Ça n'a rien à voir. Au niveau féminin, les filles peuvent jouer dans le championnat à partir de 12 ans et après, il n'y a pas de limite d'âge.
D'accord. Les filles peuvent jouer à partir de 12 ans, tu as dit.
Oui, c'est ça.
En dessous.
Alors, en dessous, elles jouent avec les garçons.
Voilà, c'est ça. C'est voilà. Ce que, voilà,
alors,
c'est...
en fait, elles peuvent jouer, je crois, même jusqu'à 18 ou 20 ans maintenant avec les garçons. Mais alors, le championnat féminin, c'est 12 ans. C'est surtout une question de gabarit.
Ouais.
Parce que si elles jouent contre, ben, par exemple, des filles, par pur exemple, des Suisses allemandes qui font 1m85 et 110 kg, contre une petite pitchoune de 12 ans, c'est déjà compliqué.
Ouais, l'inertie, la force cinétique, on parlait de ça tout à l'heure.
Tout à fait, voilà.
Non, mais clairement, parce que les vitesses atteintes en patinage à glace, elles sont pas...
Elles sont assez élevées, ouais.
Exactement. Ok, je vous propose qu'on fasse une petite pause maintenant et puis on continue juste derrière, ça vous va comme ça ?
Parfait, parfait.
En tout cas, merci beaucoup d'être là et merci
de nous avoir invités.
Merci
avec
à vous
beaucoup
nous
de plaisir et puis d'avoir toute cette patience là. Juste, votre prochain match, c'est quand la rentrée ? Vous savez déjà, vous avez déjà un calendrier ?
Alors là, on a le calendrier, il n'est pas encore sorti officiellement, donc les dates risquent de changer, mais on a tout sur la page Facebook, donc ceux qui sont intéressés peuvent venir.
Ouais, ouais.
Et puis on a un match amical le 2 septembre
à la Vallée de Joux.
Voilà.
Oh, très bien. Contre qui ?
Contre Fleurier.
Contre Fleurier, ok, très bien.